La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La vie d'Elfried Jelinek est marquée d'abord par l'atmosphère familiale qui la voit grandir entre un père d'origine juive, chimiste, qui ne se remettra pas d'avoir dû mettre sa science au service du Troisième Reich pour échapper aux persécutions, et une mère à la personnalité étouffante avec laquelle elle vivra toute sa vie. La pianiste, son célèbre roman, raconte en partie cette relation mère-fille, même si le film qu'en a tiré Michael Haneke a sans doute exagéré un peu cette image d'une Jelinek ressemblant à son personnage cruel et cassant d'Erika, comme l'a interprété Isabelle Huppert. Sa vie, nous l'avons donc évoquée hier avec Yasmine Hoffman. Demain, nous nous proposerons de parler de deux questions en particulier, en nous demandant d'abord si la littérature de Jelinek relève de la pop culture, et puis si cette écrivaine est ou non une personnalité scandaleuse avec une œuvre scandaleuse. Ce sera d'abord avec Vanessa Besan, puis avec Béatrice González-Fangel. Enfin, jeudi, une émission sans lien avec le reste de la semaine, puisque nous nous demanderons si le livre de Michel Houellebecq, Sérotonine, restera ou non dans l'histoire de la littérature. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer les grands thèmes de l'œuvre de celle qui obtint le prix Nobel de littérature en 2004, nous sommes avec Florence Banco, professeure de littérature et d'histoire des idées à l'Université d'Aix-en-Provence, spécialiste notamment de Franz Kafka, mais aussi d'Elfried Jelinek, à qui elle a consacré un essai en 2010 dans la collection Voix allemande des éditions Belin. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Les écrivains qui crient constamment au jeu en se désignant eux-mêmes ne m'intéressent pas. Seuls m'intéressent ceux qui connaissent la vulnérabilité du moi, ceux qui disent « je », mais désignent autre chose, qui n'est ni leur « ça », ni même leur « surmoi », mais tout ce qui les traverse en écrivant. Et je veux me compter parmi eux. Ce sont des écrivains de l'écriture chiffrée, des écrivains qui, lorsqu'ils écrivent, cessent d'être vraiment eux-mêmes. Par exemple, lorsque j'écris, j'entre dans un état de transe stimulante, un état entre la veille et le sommeil, mais qui n'est ni l'un ni l'autre.
Extrait d'un entretien avec Christine Le Cerf datant de 2005. Bonjour Florence Banco.
Bonjour.
Dans cet extrait, Jelinek dit qu'elle appartient à la communauté des écrivains chiffrés, des écrivains que la littérature traverse littéralement. Comment vous comprenez-vous cette expression qui est elle-même un petit peu codée, un petit peu chiffrée ?
Je pense qu'effectivement, Jelinek ne veut pas se définir comme un jeu, ça n'intéresse pas de parler d'elle, simplement de te faire, elle, le vecteur de ce qui se passe autour d'elle, ce qui se passe dans le monde, qu'elle essaie d'écouter, qu'elle essaie de saisir, avec toute la difficulté qu'elle peut avoir aussi à se confronter à autrui, au monde, puisqu'elle est agoraphobe, mais elle aime se laisser traverser par l'actualité, par le monde, et faire de ses textes aussi, comme de ses personnages, des surfaces langagières. Ce qu'elle appelle les surfaces langagières. Donc se faire l'écho du monde, ça me semble important aussi de percevoir ça chez elle. Et puis l'idée d'écrire aussi dans un état entre veille et sommeil, c'est pour moi assez intéressant. Moi j'ai travaillé sur Kafka aussi longuement. Il y a beaucoup de parallèles à tisser entre Jelinek et Kafka. Et Kafka disait de lui-même la même chose, à savoir qu'il était un peu im abseits, à l'écart du monde, mais que c'est dans cet écart qu'il arrivait à saisir le monde, et aussi dans l'écart entre veille et sommeil, dans une sorte d'état un peu à la fois d'apesanteur et d'extrême sensibilité au monde.
Donc il y a quelque chose d'une tradition de la littérature germanique qu'on retrouve chez Jelinek ?
Oui, sans doute. La littérature autrichienne en particulier, je pense que c'est aussi ça, cette extrême sensibilité aux vibrations et aussi ce questionnement permanent du langage qui est très important chez elle.
Alors c'est vrai que c'est une écrivaine insaisissable, vous l'écrivez vous-même dans votre essai, c'est l'auteur d'abord d'une œuvre totalement iconoclaste, anti-idyllique, d'une esthétique, dites-vous, de la cruauté, de la laideur et de l'abjection.
Oui, c'est une esthétique très inconfortable qu'elle, qu'elle défend.
C'est vrai que c'est pas toujours facile à lire.
C'est pas toujours facile à lire. Elle a souvent été critiquée pour cela. Elle a été aussi critiquée par, relativement récemment par Nancy Houston qui disait que lire les livres de Jelinek, c'était parfois à la limite du supportable. C'est une expérience extrême aussi. Et c'est vrai qu'elle a recours très souvent à cette esthétique. On va dire pour dire rapidement de la laideur, c'est vrai, de l'abject, de la satire, de tout ce qui est qui refuse un confort de lecture qu'on pourrait appeler comme Adorno la jouissance culinaire. Il faut pas s'attendre à éprouver un plaisir confortable, tranquille en lisant Jelinek. C'est aussi une écrivaine de l'intranquillité.
Est-ce que vous diriez que le projet littéraire de Jelinek, c'est celui de la déconstruction? Votre ouvrage est beaucoup centré, ce qu'on va d'ailleurs reprendre dans l'émission, sur la déconstruction d'un certain nombre de mythes. Est-ce que on peut reprendre donc ce terme-là?
Alors le thème de déconstruction, c'est vrai que pour Jelinek, ce qui compte avant tout, c'est de ne pas se fier à la belle apparence trompeuse. Donc on va dire ça comme ça, c'est la belle apparence qui recouvre en fait, qui recouvre des catastrophes de l'histoire, qui recouvre des horreurs que l'on tente de cacher. Donc refuser un beau artificiel, c'est déjà peut-être une des premières choses qui sont importantes quand on lit Jelinek, c'est s'attendre à être dérangé, être remis en question. Déconstruire, c'est déconstruire le langage tel qu'on a l'habitude de l'utiliser, déconstruire les mythes, déconstruire toutes les images figées et essayer de voir ce qui se cache derrière.
Mais est-ce que il ne faut pas aller plus loin? Est-ce qu'il ne faut pas employer directement le mot de destruction? Déconstruction, c'est presque un peu trop gentil, c'est presque un peu trop universitaire.
Déconstruction, c'est au sens de Barthes, c'est-à-dire que Barthes dans ses mythologies, en fait, s'attaquait justement aux mythes en montrant que c'est vrai que il peut y avoir des mythes qui sont apparemment indolores, qui sont plutôt drôles, qui sont plutôt assez amusants, et puis des mythes qui sont mortifères, etc. Alors déconstruire les mythes, c'est plus que les détruire, parce que juste détruire, ça peut impliquer les mettre à l'écart et tout simplement ne plus vouloir en parler. Déconstruire, c'est essayer de comprendre leur logique interne, de montrer comment ils se sont construits, comment ils procèdent pour masquer la réalité. C'est ce qui me semble plus intéressant chez Jelinek, c'est cela, cette déconstruction dont elle emprunte la démarche à Barthes, pas uniquement. Mais...
Alors Barthes qui a beaucoup ironisé sur le mythe de la France, les frites, le beefsteak, bien d'autres choses encore, mais elle le fait avec son pays, l'Autriche, et là encore, elle le fait peut-être encore bien plus violemment que Barthes n'a pu le faire vis-à-vis de son pays à lui.
Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que chez Jelinek, il y a ce rapport d'amour-haine à l'Autriche dont Yasmine Hoffman a très bien parlé hier aussi. Travailler avant tout pour elle sur le mythe de l'Autriche 1900, de l'Autriche d'avant-guerre, de l'Autriche comme pays de bienheureux, comme l'a désigné Paul VI. Et donc travailler sur ce mythe-là, le déconstruire, c'est aussi pour Jelinek arriver à trouver sa place dans ce pays qu'elle n'a jamais pu quitter, qu'elle ne peut pas quitter, mais qui est une source permanente d'irritation pour elle. C'est important aussi pour elle de déconstruire ces mythes, pas uniquement ce mythe de l'Autriche innocente, belle, pure, idyllique, mais aussi pour voir effectivement s'en distancier, pour pouvoir continuer à dialoguer avec l'Autriche et activer la conscience critique des Autrichiens et de tous ses lecteurs en général.
Oui, comme elle l'a fait par exemple à la fin des années 90, on se souvient que c'était le moment de l'arrivée au pouvoir de Jörg Haider, et Jelinek avait interdit la création de ses pièces dans le théâtre institutionnel, disons, autrichien. Elle a défendu à l'époque le boycott de l'Autriche par l'Union européenne. Elle disait même aux touristes allemands qu'il ne fallait pas venir passer ses vacances en Autriche. Donc, c'est vraiment aller contre sa famille, contre son pays, que de dire des choses comme cela.
Oui, sans doute aller contre son pays, mais pas contre sa conscience politique, à sa conscience de citoyenne engagée qui refuse cette montée des extrémismes, cette montée du conservatisme, de la xénophobie et qui refuse d'être associée à ce type d'idéologie.
Oui.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors derrière ce mythe à détruire qui est celui de l'Autriche, c'est aussi le mythe du langage qu'elle attaque, Florence Banco. Elle réfléchit elle-même sur le langage comme un mode de connaissance, mais aussi comme un symptôme d'aliénation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ?
Alors, le langage comme mode de connaissance, c'est vrai que c'est une des premières, c'est un des premiers, une des premières manières d'accéder à la réalité, le langage. Elle a d'emblée, on peut dire peut-être déjà ça, peut-être que elle a d'emblée été confrontée à plusieurs types de langage, le langage paternel, le langage maternel, qui devient prépondérant par rapport au langage du père, le langage musical, auquel elle s'est confrontée très très jeune, le langage du corps aussi qui a été très important pour elle, et puis le langage tout simplement, c'est pas tout simplement d'ailleurs, hein, c'est le langage littéraire donc, sur lequel elle a énormément travaillé. Alors elle a été très inspirée par la Wiener Gruppe, hein, le groupe viennois qui a travaillé, qui a beaucoup expérimenté sur le langage et qui a essayé lui aussi de déconstruire le langage tel qu'il était, le langage du logos, logique, rationnel, qui peut servir à étayer un pouvoir potentiellement totalitaire.
Et un langage qui est assez creux.
Qui est assez creux.
Qui ne dit finalement pas grand-chose.
Voilà, où finalement le rapport signifiant-signifié n'est pas forcément net, parce que le langage peut être très creux, comme l'a montré aussi Karl Kraus plus tôt. Et donc Jelinek va s'attaquer à ce langage, à cette matière du langage, pour aussi essayer de retrouver la matière brute des mots, tout simplement, et en jouer de manière musicale, finalement, comme les représentants de la Wiener Gruppe, et comme elle l'a fait avec le langage musical. Donc recomposer le langage, mais pas forcément en visant toujours un sens. C'est ce qu'elle fait dans un de ses premiers textes, Boucolite aussi, où c'est un langage extrêmement ludique, post-dadaïste qu'elle utilise pour jouer avec cette matière sonore et recréer autre chose à partir du langage.
Donc ça pourrait être une critique du mythe de l'utilité du langage.
Oui, alors le langage comme vecteur, alors soit d'idéologie, soit comme vecteur de clichés, de stéréotypes, de projections, du discours publicitaire notamment, du discours politique. Donc voilà, il lui importe de revenir à cette matière première du langage et de mettre en avant aussi la plurivocité du signe et de jouer avec cela. Donc jouer avec cette matière brute des mots, jouer avec la musicalité des mots, jouer aussi avec le langage de ceux qui l'ont précédé, à savoir les représentants de la tradition littéraire, classique ou pas d'ailleurs. Puisque effectivement, toute son œuvre est un gigantesque laboratoire de langage, des langages les plus divers, que ce soit justement le langage musical, artistique, littéraire.
Et puis, elle reprend, comme un palimpseste, différents textes pour les intégrer à ces textes à elle, Sartre, Hölderlin, Ibsen. Comment se sert-elle de ces grandes références et à quoi lui sont-elles utiles ?
Alors, il est rare qu'elle dise, c'est très rare, peut-être dans ses textes, dans ses essais, ses discours, qu'elle dise ouvertement, je cite Hölderlin, je cite...
Pour Ibsen, que... par exemple, c'est très clair, puisque elle fait référence au personnage de Nora, qui est de toute évidence celui créé par Ibsen.
Bon, ça suppose aussi que le lecteur ou le spectateur ait déjà vu la pièce d'Ibsen, on a entendu parler quand il va voir la pièce de Jelinek, mais bon, c'est vrai qu'il y a des références qui sont assez évidentes, il y a beaucoup de références qui sont extrêmement cryptés, cachés. Par exemple, j'ai travaillé il y a quelques années sur une pièce qui était au concours de l'agrégation, qui était In den Alpen, dans les Alpes, où vous avez un nombre de références cryptées qui sont pratiquement impossibles à trouver, si ce n'est par quelqu'un qui connaisse parfaitement Schubert, par exemple, qui connaisse parfaitement l'œuvre d'Hölderlin. Et donc, c'est vraiment un jeu de pistes que d'arriver à retrouver la source de telle ou telle référence. Et comme je le disais tout à l'heure, ça peut être des références à des leaders de Schubert, ça peut être des références à un discours publicitaire, un slogan, enfin toutes sortes de choses qui sont entremêlées dans ce nouveau tissu, puisque Jelinek dit que ce qui l'intéresse, ce n'est pas de représenter le monde au sens d'une mimésis, d'une illusion qu'on donnerait du monde, mais c'est de le recomposer pratiquement comme un compositeur. Mmh. Et donc voilà, elle joue avec toutes ces références, que ce soit des références très très classiques ou très très contemporaines. Et ce qu'elle aime beaucoup aussi faire, c'est mettre dans la bouche de, par exemple, d'ouvrières des vers d'Hölderlin, de manière à créer ce qu'on pourrait appeler une sorte de décalage ou de déphasage ou de dissonance. Pour faire réagir aussi le lecteur et créer justement une sorte de malaise, le rendre inconfortable dans sa lecture et l'amener doublement à réfléchir sur l'origine de ce langage.
Mais encore faut-il en effet avoir les références. Voilà. Est-ce que c'est un corpus, celui de Jelinek, qui est destiné à des personnes déjà très cultivées, déjà très littéraires? Est-ce qu'on peut entrer, vous avez dit tout à l'heure que c'était une littérature difficile, quand on n'a pas cette culture-là, directement dans le texte, l'apprécier, le comprendre, s'en imprégner, en retirer quelque chose?
Je pense qu'on peut l'apprécier, qu'on peut s'en imprégner si on n'a pas ces références-là. Je ne connais pas une personne qui maîtrise toutes les références nécessaires pour comprendre l'intégralité du texte de Jelinek. Ou alors, sans doute Yasmin Hoffman fait partie de ces personnes qui connaissent tellement intimement l'œuvre qu'elle y parviendrait ou qu'elle y parvient. Mais en tout cas, je pense qu'on peut apprécier au moins cette musicalité-là, cette radicalité, cette violence, cette cruauté, hein, parce que parfois, c'est vraiment, ce sont des textes qui vous mettent par terre tellement ils sont violents. Maintenant, vraiment tout comprendre, comprendre la majorité des références, c'est vrai qu'il faut, être quand même assez cultivé, je pense.
D'où l'importance d'une bonne traduction. Traduction bien souvent, justement, de Yasmin Hoffman. Est-ce que tout de même la lecture en allemand est différente? Est-ce qu'elle crée, pour ceux qui maîtrisent cette langue allemande, une sensation particulière par rapport au français, selon vous?
Oui, je pense qu'il y a... Il y a des jeux justement sur les sons, sur les voyelles, sur les sonorités, les échos qui sont encore plus appréciables en allemand, mais tout dépend des traducteurs. C'est vrai qu'il y a des traducteurs, bon, je ne vais pas du tout citer de nom, mais il y a des traducteurs qui ont un petit peu peut-être trahi le propos initial de Jelinek en refaisant ce qui n'est pas une traduction mais plus une sorte de commentaire du texte, et puis des traducteurs comme Yasmin Hoffman, comme Olivier Lelay notamment aussi, qui ont été extrêmement loin dans cette démarche aussi de compréhension de l'intérieur de la musicalité de Jelinek pour rentrer dans cette phrase musicale, dans ce rythme, et arriver à rendre ce rythme très 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 difficile.
Monsieur Witkowski était revenu de la guerre, unijambiste certes, mais toujours debout. Pendant la guerre, il était plus qu'aujourd'hui, à savoir un bipède entier et membre de la SS. Dans son hobby, qui ne connaît pas de limites, la photographie d'art, il déploie aujourd'hui le même acharnement qu'à l'époque où il avait choisi son métier. Ses adversaires d'alors s'étaient échappés par les cheminées et les crématoires d'Auschwitz et de Treblinka, où recouvrait la terre slave. Les mesquines limites actuellement assignées à l'Allemagne, le père de Rainer les franchit chaque jour quand il fait ses photos artistiques. Seul le petit bourgeois connaît de telles limites dans sa vie privée. Dans la photographie, les limites, ce sont les vêtements. Et Witkowski père brise les barrières étroites des vêtements et de la morale. La mère avait tout de suite compris de qui Rainer tenait son désir d'être artiste. Du père. Le père possède un œil d'artiste amateur. Déshabille-toi, Margaret. Nous allons faire une ou deux photos de nu. Encore me déshabiller? Et ça te prend toujours quand je suis en plein ménage. Qui entretient la famille? C'est moi, non? Disait M. Witkowski, invalide à la retraite le jour et portier la nuit. Mon violon dingre, la photo porno, c'est tout ce qui me reste avec cette infirmité. Pour les êtres mûrs, il n'existe pas de pornographie. Elle n'existe que pour ceux qui ont encore besoin d'être guidés. Si mes enfants ne me suivent pas au pays de mon hobby, toi au moins tu m'y suivras, Gretel. Et maintenant que ça saute, mon appareil est impatient d'exercer ses fonctions. Tu ne peux pas me photographier habillée comme tout le monde, non? Habillée, n'importe quel photographe du dimanche peut le faire. En outre, J'en profite deux fois. D'abord en prenant les photos et ensuite en les regardant pour les soumettre à mon jugement critique. Entre les deux, il y a le développement et l'agrandissement. Ça aussi, c'est amusant.
La compagnie des auteurs sur France Culture avec cet extrait des Exclus, roman ici interprété par Michael Cohen. C'est un roman qui date de 1980. C'est pas le roman le plus difficile à lire, en l'occurrence, il est dans une veine peut-être moins expérimentale que les autres. Qu'est-ce que vous retenez de cet extrait, Florence Banco?
Déjà, ce personnage du père, qui est un personnage qui est en lui-même très, très antipathique, parce qu'effectivement, il est lié à ce passé nazi, il victimise toute sa famille, finalement, il aliène toute sa famille, notamment sa femme, mais aussi ses enfants qui sont de jeunes petits bourgeois un peu très décadents en fait notamment sa fille Anna dont on a pu souvent penser que c'était une forme de double littéraire de Jelinek parce qu'elle est très douée en musique mais elle est un petit peu à part dans son groupe d'amis qui sont tous désœuvrés qui passent leur journée finalement enfermés à se gaver d'idéologies les plus diverses et variées sans avoir de recul critique. Et donc pour revenir à la figure du père, donc ce père donc infirme qui fait des photos porno pour finalement occuper ses journées, qui se considère comme un artiste petit bourgeoise qui va mal ensemble en général, enfin en tout cas chez Jelinek notamment. Et artiste voyeur, puisqu'il aime prendre ses photographies porno de sa femme, qu'il donc soumet à son désir de faire de l'art.
Qu'elle n'apprécie pas tellement,
l'arrache à ses tâches de ménagère pour lui faire faire des photos porno. L'appareil photographique servant sans doute de substitut de phallus. Donc là, on a vraiment à la fois la dénonciation de ce pouvoir paternel très très fort, de ce pouvoir machiste qui est quand même, c'est une thématique qu'on retrouve très souvent chez Jelinek. Le fait que la femme ici n'a pas de désir propre, hein, qu'elle est soumise aussi au bon vouloir de son mari. Et puis la photographie utilisée à des fins de voyeurisme, mais pas à des fins de création véritable. Donc on a vraiment là une sorte de condensé de beaucoup de thèmes qu'on trouve chez Jelinek.
Et en particulier, le thème de l'écriture féminine ou féministe, c'est une question qui se pose chez Jelinek. C'est assez ambigu finalement d'y répondre comme ça de but en blanc. Qu'est-ce que vous diriez, vous ?
Alors c'est vrai qu'on a souvent dit que de Jelinek qu'elle était une écrivaine féministe. Et donc elle-même s'est beaucoup intéressée au féminisme, à ce mouvement qu'elle a suivi. Donc elle a été dans des meetings, elle a lu les grands textes des fondatrices du mouvement féministe. Mais comme toujours chez Jelinek, elle se tient à l'écart, c'est-à-dire qu'elle refuse d'être inféodée à une forme d'idéologie.
Oui. Et en plus, réserve participative.
Voilà, elle a cette sorte de réserve qui est un peu celle de Kafka aussi. Hein. Elle a cette volonté de se tenir à mi-distance des choses et de garder toujours une conscience critique très lucide. Et donc, cette écriture, on peut parler de chez elle d'écriture féminine, bien sûr. Elle écrit en tant que femme et elle revendique ce statut de femme, mais pas féministe au sens où elle revendiquerait une émancipation. Elle serait certaine que les femmes tendent vers cette émancipation. Parce que le constat que fait Jelinek et ce qu'elle montre aussi dans tous ses romans, c'est que les femmes n'ont pas de langage propre, que les femmes aimeraient accéder à ce langage propre, mais que souvent elles sont victimes du pouvoir patriarcal. Et elles sont objets de désir, soumises à leur mari, leur amant, leur patron.
Et elle-même, elle écrit, et c'est une femme.
Elle écrit.
D'une certaine façon, elle a un langage qui est un langage de femme, vous ne croyez pas ?
Elle a un langage de femme, oui, et ça, évidemment, elle a son langage de femme propre, mais elle n'est pas... Enfin, elle n'est pas persuadée, je pense, que les femmes aient une identité de langage. Quand elle écrit Loust, par exemple, elle veut écrire un roman qui soit pornographique féminin, et elle vient au constat qu'il n'y a pas de langage de langue féminine pour dire la pornographie, et qu'on finit par utiliser toujours, même en tant que femme, des mots déjà utilisée par les hommes. Donc, oui. Mais tout en dépassant cette dichotomie aussi homme-femme.
On va écouter justement un extrait de Lust, toujours par Michael Cohen.
La femme n'a même pas le temps de baisser les yeux. Le directeur ne l'approuve pas lorsqu'elle veut se rendre à la cuisine préparer quelque chose. Résolu, il saisit son bras. Il veut d'abord l'entreprendre, a dans cette intention repoussé deux rendez-vous. La femme ouvre la bouche, elle aussi veut le repousser. Elle pense à sa force et referme la bouche. Cet homme jouerait sa mélodie, même au sein de la roche, caressant, jubilant son violon et son membre. C'est toujours la même chanson, ce claquement sonore, surprenant et terrible, accompagné de regards courroucés. Cette femme n'a pas le cœur de se refuser, elle va, désarmée. L'homme est toujours prêt et se réjouit de lui-même. Le pauvre comme le riche mérite le jour riant, le pauvre hélas, l'envie au riche. La femme rit nerveusement lorsque l'homme, encore en manteau, se dénude où il faut. Il ne manque pas de culot de se déculoter ainsi. La femme rit plus fort et porte effrayée la main à la bouche. Découle la menace. Résonne encore en elle l'écho du tourne-disque où ses sentiments tournent en rond et communiquent avec ceux d'autres êtres sous les espèces de Jean-Sébastien Bach. Nourriture particulièrement adaptée à la consommation. L'homme se déploie de toute sa taille au milieu de ses aiguillons pileux et cuisants. C'est ainsi que les hommes se magnifient, eux, et leurs œuvres qui toutefois s'effondrent derrière eux. Les arbres de la forêt ont meilleure tenue.
Alors, Lust, c'est un roman important parce que, roman pornographique féminin, si tant est que ce soit possible, parce que il a ancré l'image de Jelinek, il en a fait presque une espèce de marque, et on l'a identifié à ce roman-là. Qu'est-ce qu'il faut en garder, selon vous, de ce livre ?
Ben, je pense à un livre extrêmement, peut-être encore plus inconfortable que les autres, enfin à mon sens, parce que c'est vrai qu'il y a une écriture de la sexualité qui peut en rebuter certains. On a parlé tout à l'heure de l'abject, du dégoût.
En même temps, c'est moins dégoûtant, entre guillemets, par exemple, que les 120 journées de Sodome dont on parlait la semaine dernière.
Oui. Mais je ne sais pas, après c'est difficile d'établir une hiérarchie. Bon, moi je me suis beaucoup intéressée aux catégories négatives, donc je trouve que c'est toujours passionnant de travailler là-dessus et de réfléchir sur ces catégories-là. Mais c'est vrai que dans Lust, la femme est vraiment, je vais le dire un peu vulgairement, mais je crois que c'est quand même ça, hein, la femme est présentée comme un trou, comme une béance. Alors là dans l'extrait qu'on a entendu, c'est la béance de la bouche. La femme ferme sa bouche parce qu'elle ne peut pas parler, qu'elle est obligée de céder au désir de l'homme qui la domine, qui la maîtrise, qui la transperce, qui la consomme en fait comme une marchandise, et elle est qui la cloue à terre, qui lui fait subir les pires outrages. Elle ne peut pas répondre, elle ne peut pas réagir en fait. Et c'est vrai qu'elle est pratiquement prostituée par son propre mari, qui a peur du sida et donc qui préfère utiliser sa femme comme une prostituée que d'aller voir des prostituées. Et donc elle ne se refuse pas, désarmée, ce sont les termes qu'on a entendus. Voilà, donc l'homme ici est un homme prédateur, et c'est vrai que, enfin, comme très souvent hein, dans les œuvres de Jelinek, mais c'est vrai que cette écriture-là, on s'attend effectivement à avoir une sorte de bataille au féminin, à lire une voix qui s'apparenterait à du bataille féminin.
C'était son projet en tout cas, il y a une référence explicite à bataille.
Et elle dit que il ne peut pas donc effectivement y avoir de langue féminine de la pornographie en tout cas. Et que chez Bataille, en fait, Bataille a cette théorie de l'érotisme selon laquelle l'érotisme n'existe pas sans la beauté. C'est-à-dire que c'est la beauté souillée. Mais il part du principe qu'il existe une beauté. Et que la souillure, que plus profonde est la beauté, plus profonde est la souillure. Donc il y a ce rapport dialectique entre beauté et souillure. Or, chez les Jelinek, il n'y a pas de beauté. Ou quand c'est une beauté, c'est une beauté qui est trompeuse, qui est voilà, qui est fallacieuse.
Il y a la beauté factice de la bourgeoisie. C'est un roman qui se passe dans un milieu bourgeois. Le mari est chef d'entreprise et sans cesse, il est question de l'enfant, l'enfant chéri, l'enfant choyé, qui même, par moments, voit des scènes de sexe entre ses parents. Donc il y a une critique vraiment sociale à travers la pornographie.
Voilà, alors ce qu'elle dit, c'est qu'il y a ce qui est avant tout la pornographie, c'est la pornographie bourgeoise. Le monde bourgeois est un monde pornographique obscène, et obscène aussi au sens où il se passe des choses au-delà de la scène, derrière la scène, qu'on ne voit pas, mais qui sont autrement plus glauque que ce qu'on voit de manière visible. Et donc c'est aussi ça ce qu'elle dénonce. Hein. Et dans Lust en allemand, ça veut dire le plaisir, ça peut vouloir dire la jouissance. Mais là, c'est un plaisir, en tout cas sans jouissance féminine, ça c'est certain. Mais il y a aussi une sorte de cruauté, presque au sens du théâtre de la cruauté de D'Artaud. C'est-à-dire qu'on utilise la chair comme moyen de dénoncer autre chose, c'est-à-dire justement cette collusion des intérêts économiques et de la sexualité, de l'économie de la sexualité dans le monde petit bourgeois. C'est une thématique qu'on trouve très très souvent chez Jelinek.
Et en même temps, dans Les Amantes, livre antérieur qui date de 1975, là on est dans un milieu ouvrier. Et la critique, elle est davantage la critique du mythe de l'amour un petit peu kitsch, mais on n'est pas en effet dans le même milieu.
Alors, on n'est pas dans le même milieu, si ce n'est qu'il y a deux protagonistes qui sont un peu différentes, c'est-à-dire que Paola et Gertie, donc Paola et Brigitte, dont l'une, donc Paula, on dit en français, Paula, les deux en fait, personnages féminins ont une sorte de rêve amoureux, le rêve du grand amour, du prince charmant qui leur fera vivre une vie magnifique. Ah. Et Paula donc, s'est prend d'un bûcheron, Eric, la description de la rencontre est très très kitsch, ponctuée de clichés kitsch, le bel homme qui arrive pour la sauver, etc. Et il s'avère que Eric est alcoolique, violent, et que Paula a un destin totalement tragique. Elle va finir par se prostituer, par retourner vivre chez ses parents, divorcer d'Eric, enfin ça se passe très mal. Et l'autre personnage féminin rencontre un petit commerçant, un petit bourgeois finalement, qui lui assure une existence relativement confortable économiquement, mais elle vit un ennui profond et finalement c'est le vide intérieur de ces deux femmes qui est décrit dans ces deux romans, qui sont des romans kitsch au sens où ils utilisent le kitsch pour dénoncer justement ce culte du joli, du mythe de la rencontre amoureuse, tout se passera bien, et qui se finit finalement de manière assez tragique.
Allez, on va continuer avec vous cette conversation autour de la littérature d'Elfriede Jelinek, Florence Banco, juste après la chronique de Jérôme Dupuis.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Jérôme Dupuis du magazine L'Express, notre partenaire. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, vous allez nous parler d'un homme d'église.
Oui, effectivement, un abbé de choc, un ecclésiastique très sulfureux, qui s'appelle l'abbé Norbert Valaise, comme on dit en France, mais en réalité Norbert Wallet, comme on dit en Belgique, puisqu'il est belge. C'est un personnage qu'on a vu un peu en personnage secondaire des biographies d'Hergé, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Et pour la première fois, il a droit à sa biographie à part entière, sous un très beau titre d'ailleurs, très parlant, l'abbé Wallet, l'éminence noire de De Grelle et Hergé, et on doit cette biographie à Marcel Villemet.
Alors qui était donc cet abbé Wallet?
Alors c'était un abbé très particulier qui est né en 1882 avec une carrure de rugbyman et qui était autant un homme de presse qu'un homme d'église. Il avait une plume très vive, il adorait écrire des pamphlets sur la Rhénanie surtout. Et du coup, les milieux conservateurs lui donnent les rênes du grand quotidien catholique belge de l'époque qui s'appelle le 20e siècle.
Conservateur, voire même très conservateur.
Très conservateur, puisqu'il était connu pour avoir dans son bureau une photo de Mussolini dédicacée. Ça
oui.
Plante un petit peu le décor. Néanmoins, il faut lui reconnaître une grande qualité, c'est qu'il avait le nez creux dans ses recrutements, puisqu'il va embaucher coup sur coup deux très jeunes personnes qui avaient tout juste 20 ans et qui vont beaucoup, beaucoup faire parler d'eux plus tard. Le premier, c'est Léon de Grelle, qui l'embauche alors qu'il était encore étudiant comme grand reporter. Il va l'envoyer au Mexique, un peu partout. Bon, on sait qu'ensuite, Léon de Grelle deviendra un leader d'extrême droite, qu'il fondera le parti Rex, qu'il ira combattre en Russie, qu'il sera assez proche d'Hitler. Et puis, évidemment, il y a le deuxième jeune homme embauché.
Et ce deuxième, c'est Hergé.
C'est évidemment Hergé, Georges Rémy, qui l'embauche à 20 ans au service des abonnements. Et puis l'abbé Wallet observe que ce garçon a un bon petit coup de crayon. Et il lui suggère directement, il lui dit, créer un petit héros. On pourrait même l'envoyer au pays des soviets pour sa première aventure. Il lui donne même une sorte de pamphlet anticommuniste pour qu'il puisse s'en inspirer.
Ça nous rappelle quelque chose.
Voilà. Et puis, dans la foulée, il lui dit, vous pourriez envoyer votre petit personnage au Congo, puisqu'on est encore en empire colonial belge. Donc, effectivement, cet abbé Wallet a eu une grande place dans la création du personnage de Tintin. Certains vont même jusqu'à dire qu'il en serait presque le co-créateur. Il en a en tous les cas été le premier éditeur et il percevait tout de même 50% des bénéfices sur les premiers albums.
Alors quelles étaient donc les relations entre cet abbé Wallet et Hergé ?
Alors il y avait une relation à la fois d'influence idéologique et d'emprise psychologique. Il est évident qu'aux côtés de l'abbé Wallet, Hergé a fréquenté tous ces milieux droitiers des années 20 et 30. Il y va y tisser un certain nombre d'amitiés, de fidélités qui vont un peu le poursuivre durant l'occupation par les Allemands. Mais il exerce aussi une forme de magistère un peu moral sur Hergé. Il est une sorte de directeur de conscience. Hergé va épouser la secrétaire de l'abbé. C'est l'abbé qui va les marier. Dès que le couple d'Hergé battra de l'aile, c'est vers cet abbé qu'il se tournera.
Et alors comment ça va se terminer, la vie de cet abbé Wallet, Jérôme ?
Mal, forcément. Il va être victime et de son tempérament et de son idéologie. Il avait mené une énième campagne de presse qui lui a valu finalement d'être exclu du XXe siècle. Le clergé l'a installé dans une petite abbaye dans le Hainaut pour le mettre un peu à l'écart. Mais quand la Seconde Guerre mondiale éclate, il va reprendre du service, si j'ose dire, et se lancer dans une série de conférences fracassantes où il va prôner l'union des Wallons et des Flamands aux côtés des nazis. On l'imagine, ça lui vaudra un certain nombre d'ennuis à la libération. Il va même faire pas mal de prison. Et puis finalement, il va mourir un peu seul en 1952. Enfin, pas tout à fait seul, puisqu'il y a un homme qui jusqu'au bout sera extrêmement fidèle avec lui et le verra jusqu'à sa mort, sera même là lors de ses obsèques, c'est Hergé.
L'éminence noire de De Grelle et Hergé, c'est une biographie de Marcel Villemet aux éditions Neuf. Art Neuf Expert. Merci Jérôme Dupuis. Tout cela et bien d'autres choses encore à retrouver dans les pages livres du magazine L'Express. La compagnie des auteurs, c'est sur France Culture, deuxième moment de notre série consacrée à la prix Nobel de littérature 2004, l'Autrichienne Elfriede Jelinek, qui s'emploie, on a déjà commencé à le comprendre, à fracasser les mythes d'une société qui vit, pense-t-elle, dans le déni. On repart dans cette seconde partie avec un extrait de son roman Avidité, intitulé par antiphrase « Roman de divertissement », alors qu'on peut y voir une farce macabre de bout en bout.
La vie, on ne peut pas la chausser et la déchausser comme une paire de skis pour glisser à travers la nature. Cette richesse inouïe, quoique parfois enneigée, d'acides aminés et de vitamines, qu'on ne saurait gagner par de seules aventures. Ces acides aminés et ces vitamines, on doit les prendre grâce à des compléments, à la différence des plantes qui savent produire elles-mêmes ces substances. Elles récupèrent les éléments dont elles ont besoin et qui doivent être présents sous une forme utilisable, et c'est parti. Un sol frais comporte tout cela en quantité suffisante. Mais les sols lessivés n'en ont pas. Ils sont épuisés parce qu'on leur a toujours demandé la même chose pendant trop d'années. Ils auraient drôlement besoin de changement. Tiens, voilà que ce sol est acide. Ce n'est pas bien bon, il faut à tout prix diminuer son acidité. Or, la plupart du temps, on s'y prend mal. À présent, les villageois se réunissent pour parler d'une jeune morte. Les cercles concentriques qui autour d'elle se dessinent sur l'eau, à l'infini, ne semble pas avoir de cause, du moins pas de cause que l'on connaisse. la jeune morte est déjà devenue tout irréel. Plus on parle d'elle comme d'une affaire lourde de sens, en ayant soif de sensations, plus elle semble disparaître des petites choses qui donnaient justement un sens à sa vie, et auxquelles de son vivant, elle s'était abreuvée. Cette blanche neige a reposé quelques jours durant dans son cercueil d'eau froide et sombre. Non, pas très longtemps, seulement pendant un temps relativement bref. Et elle ne s'est pas décomposée. Dans l'eau, le corps a gardé sa fraîcheur, qui n'est guère que celle d'un cadavre. Aucun prince ne pourrait la réveiller. Et s'il emmenait la jeune fille avec lui dans sa chambre, elle se mettrait à pourrir, à sentir mauvais, à susciter le dégoût, à avoir des taches livides et une coloration verdâtre de la paroi abdominale. Pendant un temps, une rigidité à la faire tenir debout.
Extrait lu par Violaine Schwartz. Qu'est-ce qui vous frappe, Florence Blanco, dans ce qu'on vient d'entendre ?
Mais peut-être, bon, déjà, ce genre, la farce macabre, c'est déjà un oxymore en soi, mais c'est vrai que c'est ce qu'on trouve pratiquement toujours chez Jelinek. C'est-à-dire ce mélange entre la noirceur la plus absolue et quand même de temps en temps des touches d'humour, mais d'un humour très, extrêmement noir qui fait donc réagir, qui fait réfléchir. Ensuite, ce thème de la mort de cette jeune femme Blanche-Neige, donc la figure de Blanche-Neige qui est une figure qu'on retrouve très souvent chez Jelinek. Alors donc, effectivement il y a un emprunt au monde du conte, du mythe Blanche-Neige, la blancheur de la neige aussi, la neige immaculée qui chez Jelinek recouvre toujours des cadavres, des montagnes de cadavres. C'est aussi une métaphore de l'Autriche, la Blanche-Neige, l'Autriche à la Blanche-Neige, c'est ça. Et cette jeune fille qui a donc été tuée par un policier assassin, un violeur, qui en fait elle se trouve donc effacée du reste du monde presque. Donc elle est enterrée dans une sorte de couche d'oubli finalement la sensation, ce culte de la sensation, tout le bruit qui est fait autour de cette mort ne fait que masquer en fait le fait qu'on ne veut pas chercher la véritable cause de ce crime. Donc il y a aussi toujours dans ce texte-là, mais comme dans beaucoup de textes de Jelinek, notamment presque les plus récents, de manière encore plus prononcée, l'idée que les morts reviennent, que malgré tout ce qui est refoulé, qui est caché sous cette épaisseur de neige blanche qu'on trouve en Autriche, et que ces morts finissent toujours par réapparaître et qui finissent par sentir mauvais au sens abstrait du terme, c'est-à-dire mettre le monde, sa société face à ses contradictions et face à son pouvoir mortifère. Donc voilà, je vois un petit peu tout ça dans l'extrait qui a été lu. Et cette dénonciation toujours du sort de ce mensonge de la belle apparence.
Et cette couche de neige blanche qui recouvre les superbes sommets de la montagne autrichienne, c'est aussi la nature en tant que telle, parce que la nature est aussi un mythe pour les Autrichiens. Que là encore, Jelinek va chercher à détruire, à déconstruire, peut-être pas tout à fait dans l'extrait qu'on vient d'entendre, même s'il y a aussi la référence au sol qui est délavé, qui est détrempé, qui n'est plus nourrissant. Donc il y a quand même toujours la nature un petit peu en sous-texte. Pourquoi va-t-elle jusqu'à dénoncer ce mythe-là ? Parce que la nature, elle existe aussi pour les personnes qui ne sont pas prises, si c'est possible, je ne sais pas, dans l'idéologie, disons bourgeoise, pour faire court.
Alors, donc, Jelinek a écrit un texte qui s'appelle « Méfions-nous de la nature sauvage », aussi, qui est un très beau texte aussi, mais qui dénonce le discours de ceux aussi qui postulent l'idée d'une nature originelle, brute, pure. Donc, le discours écologiste, notamment, en disant que bon, là, c'est une illusion aussi, c'est une sorte de mythe trompeur, parce que la nature telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est très souvent aussi entravée, aliénée, domestiquée par la technique.
C'est précisément ce que exploité. Les écologistes vont peut-être dénoncer.
Oui. Mais il y a aussi chez Jelinek l'idée qu'il n'y a pas de nature pure, idéale, originelle qu'on pourrait retrouver, qu'il n'y a pas de retour à ça.
C'est pas que ça aussi, c'est kitsch d'une certaine façon de le penser.
Voilà. Et que voilà. Mais ensuite, il y a aussi, bien sûr, la dénonciation du mythe autrichien de la belle nature alpine qu'on peut trouver par exemple dans Heidi, dans les romans de Anna Spyri par exemple. Donc ça c'est aussi un mythe qui est kitsch puisque il repose sur une idéologie qui est souvent aussi qui a souvent été réutilisée dans ce qu'on appelait les romans du terroir, les Heimatfilme, qui a été parfois exploité à des fins idéologiques, notamment par les nazis, etc. Donc, il y a une méfiance vis-à-vis de l'instrumentalisation de la nature et de l'instrumentalisation idéologique.
Oui.
Et puis, la nature blanche, la neige... Disons que la nature recouverte par une couche de neige, comme aujourd'hui à Paris, par exemple, enfin, sauf que c'est pas franchement naturel, un paysage, mais il y a aussi cette idée qu'effectivement, cette blancheur, ça n'est qu'une apparence, et que le sol qui est sous cette couche de neige n'est plus forcément très fertile.
Mais à Paris, c'est toujours très fertile, hein, je vous promets. Il y a aussi cette pièce intitulée Totenberg, où elle met en scène Heidegger et Anna Arendt. Totenberg, justement, un village de la forêt noire où Heidegger avait un chalet dans lequel il a écrit d'ailleurs une bonne partie de son œuvre, au milieu précisément de la belle nature. Ça n'est pas pour rien que cette pièce s'appelle du nom de ce village, précisément en pleine nature.
Et oui, parce que là encore, il y a une sorte de collision assez forte entre voilà, un discours idéologique qui peut être assez marqué par la tentation fasciste et puis et la nature, cette idée d'élévation aussi, qui est propre à la montagne, donc s'élever, y compris ce que ça suppose comme élévation mystique, c'est aussi... sans doute céder parfois à la tentation d'irrationnel, voire à la tentation d'idéologie qui exploite l'irrationnel. Donc il y a aussi, je pense, chez Linek, cette extrême méfiance par rapport à cette idée de nature, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de nature propre. En général, ce qu'elle montre aussi, c'est que la nature est toujours, en fait, une nature recomprise, réintégrée dans une idéologie. Voilà, une nature qui est... aliéné par une forme d'idéologie.
Avec des morts-vivants qui remontent.
Des morts-vivants qui réapparaissent, qui ressurgissent.
Das ist meine schlechteste Eigenschaft, dass ich sehr ungeduldig bin.
Oui, c'est la plus mauvaise de mes qualités. Je suis très impatiente. Je veux tout très vite et très souvent. Avec l'ordinateur, on peut effacer totalement les choses, les faire aussitôt réapparaître, les transformer en d'autres choses. C'est la vitesse d'exécution qui me le permet, qui plus est dans une technique que je connais bien puisqu'elle reprend celle du clavier. Je peux taper à peu près aussi vite que je pense, ce qui est très important pour ma technique d'écriture, celle de l'association rapide, des jeux de mots et des jeux de langage, car tout doit se produire sur le champ. Je n'ai pas le temps de noter, ni de barrer ou d'inscrire autre chose. Tout doit se faire dans un même flux, un peu comme au piano. Au fond, je suis une éternelle pianiste, au sens où je travaille avec les doigts sur un clavier et un écran. Je dispose le texte sur l'écran presque d'une façon matérielle, en l'obtenant par un travail du corps.
D'un entretien avec Christine Le Cerf. Ce que décrivait là Elfriede Jelinek, Florence Banco, c'est presque une méthode d'écriture automatique.
Oui, ce qui m'a frappé déjà, c'est cette idée d'impatience. Parce que c'est vrai que c'est aussi la raison pour laquelle Jelinek dit avoir préféré être écrivaine que devenir pianiste professionnelle. Elle était vraiment... programmée, on va dire presque par sa mère, pour devenir pianiste. Yasmine Osman en a parlé longuement hier, mais elle disait qu'effectivement, elle est passée à l'écriture littéraire parce que ça lui permet d'aller plus vite finalement, alors qu'il y a tout un travail de composition musicale qui est plus long et plus sinueux, et que ça va plus vite finalement d'écrire, de faire passer sa pensée ou les images intérieures sur le papier. Donc là, c'est ce qu'elle dit aussi, mais toujours en gardant cette métaphore de pianiste. Elle se dit éternelle pianiste, une sorte d'éternelle pianiste qui pianoterait maintenant sur un écran, ou voire sur sa machine à écrire, qu'elle a toujours conservée. Voilà. Et donc, écriture automatique... Oui, avec des réserves, je dirais, parce qu'il lui faut aussi un temps de décantation, Jelinek. C'est vrai qu'on peut le lire, notamment, c'est très très bien expliqué dans la biographie de Yasmine Hoffman. Elle dit que, enfin, Jelinek dit qu'elle a besoin de temps pour travailler, donc elle travaille très tôt le matin. Elle se concentre sur son travail d'écriture et elle veut rester vierge de toute image extérieure, du monde extérieur, toute actualité. Donc elle écrit 3-4 heures durant, et ensuite l'après-midi elle écoute les nouvelles, elle regarde la télévision, etc. Et ensuite elle laisse toutes ces images intérieures se sédimenter, se condenser pendant la fin de l'après-midi, toute la nuit qui suit, pour n'écrire que le lendemain matin. Donc l'écriture, voilà, c'est une écriture, on va dire, comme on dit, à processus, c'est-à-dire par opposition à l'écriture à jeunesse qui nécessite du travail, retravail, retravail, des scénarios préétablis. Elle, c'est une écriture à processus, c'est-à-dire qu'elle se jette en avant dans la scription, elle écrit vraiment comme elle respire, elle a vraiment besoin de ce rythme, mais ce n'est pas si automatique que ça, au sens où c'est très... C'est une maturation intérieure qui se fait la nuit qui précède, je dirais. Voilà.
En tous les cas, cette description d'une écriture impatiente, qui a aussi une part d'instinct, elle va à l'encontre de l'idée de l'écrivain génial qui aurait tout prévu de ce qu'il allait écrire. Et ça lui va bien aussi, parce que il y a un dernier mythe qu'elle souhaite déconstruire, boucle un petit peu la boucle de cette émission, c'est le mythe du génie, le mythe de l'artiste et le mythe de l'écrivain, Florence Manco.
Oui. Elle dit d'elle-même, d'ailleurs, si on peut vraiment... D'ailleurs, je vous recommande son site qui est extrêmement bien fait, où on trouve énormément d'essais, de Jelinek,
il faut lire l'allemand.
De textes. Oui, c'est vrai, il faut lire l'allemand. Enfin bon, on peut aussi voir des textes d'interview où elle dit d'elle-même, je suis artiste, je suis créatrice, parce que je ne peux rien faire d'autre. Et en fait, un de ses détracteurs l'a traité de crétine, pratiquement. Elle lui a dit, mais elle a répondu qu'il n'avait peut-être pas tort, parce qu'après tout, elle n'était pas si intelligente que ça. Et que l'artiste qu'elle était, bien sûr, elle n'en faisait pas montre, n'en a pas particulièrement de fierté, elle ne peut pas faire autre chose qu'être artiste. Et elle considère que l'art, c'est aussi une sorte de prison, que c'est une aventure qui est sa vie. Elle ne peut pas concevoir de vivre autrement. Elle ne pourrait pas vivre d'ailleurs avec un autre artiste. Elle dit que ce serait insupportable, que la création, c'est la seule chose qu'elle sache faire. Et que créer, ça n'est pas non plus créer un monde idéal, faire des promesses intenables, mais que juste l'art peut essayer de permettre au lecteur, au spectateur, de voir la réalité peut-être un petit peu autrement, de manière un peu décalée.
Donc l'art est une réponse à la société pour Jelinek, parce que c'est vrai que c'est une littérature quand même de la destruction de tous les mythes dont on a parlé justement dans cette émission, et on a l'impression qu'il ne reste rien une fois qu'on a tout détruit. Est-ce que il y a aussi chez elle un propos qui serait un propos en positif et qui, plutôt que de montrer l'abject de ce qui ne va pas, montrerait le chemin vers ce qui pourrait être une société meilleure?
Ça donne en tout cas des petits indicateurs, mais sa démarche est extrêmement humble, c'est-à-dire qu'elle ne va pas, voilà, elle se prétend absolument pas guide, elle se prétend juste, témoin, on va dire vigilant des événements de ce monde. Je peux citer un petit passage aussi qui me semble très très fort, qui est extrait de Méfions-nous de la nature sauvage. L'art n'est pas humain, et il n'a pas non plus de visage humain. Il prend, ne donne rien en échange. Il ne donne qu'à celui qui le fabrique. L'art est comme les skis, il ignore où il va. C'est une lumière allumée exprès qu'il ne vaut pas la peine d'éteindre. Tout ce qu'il touche met aussitôt à vivre dans l'illusion de sa propre signification. L'art regarde le monde, mais le monde n'aime pas qu'on le dépeigne et détourne la tête. Un vrai salaud, l'art. Il ment comme tout le monde, n'aime personne.
Merci Florence Manco. Pour aller plus loin, je signale donc votre essai sobrement intitulé
Elfried Jelinek. On peut le trouver dans la collection Voix allemande des éditions Belin. Il constitue un excellent tour d'horizon sur le projet de l'écrivaine autrichienne, prix Nobel de littérature, je le rappelle, en 2004. C'était Les mythologies d'Elfried Jelinek dans la compagnie des auteurs, une émission proposée par Laurence Millet, Laurence Genepin, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault et Pierrick Monsigny. Demain, dernier moment de notre série consacrée à Elfried Jelinek, on parlera de son rapport avec la pop culture et nous nous demanderons aussi si son œuvre est réellement scandaleuse. Ce sera avec Vanessa Besan et Béatrice González-Vangels. Mais pour l'heure, on retrouve la poésie, choisie et interprétée comme chaque jour par Jacques Bonafé.
Comme une vague recouvre une vague et le sable sur la rive que recouvre alternativement, continuellement d'autres vagues et syllabes, voici mon palimpseste, la rime simple d'un séjour. Palimpseste, oui, c'est le manuscrit réutilisé, le parchemin gratté, c'est ça. Méditerranée, toute eau, toute lumière, toute eau, grain de sable. Toi, dans le jour, tu nages, ou patauges, te meules longtemps dans le soleil. Tu as comme franchi le seuil d'une maison qui t'est familière. Là, dans la mer, tu es comme un poisson dans l'eau. Eau, la lumière s'insinue sous le niveau de la mer jusqu'aux plaques de sable et jusqu'à tes pieds nus, cette lumière inverse au mauvais rêve de la veille quand l'eau était parfaitement opaque dans mon sommeil. Pause, il faut se remettre. Respirer. Méditerranée pleine de têtes qui tombent comme des poissons. Le don des larmes se dit aussi dans l'eau de la Méditerranée. Ah oui, attention là, le mouvement d'eau des vagues porte le poème et le bouge. Il va, il vient, poème. Ils ont creusé, la nuit ont creusé, les vagues, l'horizon, pour l'espérance ont creusé. Ils ont bu le lait noir de l'eau. C'est l'épopée triste des temps actuels, comme trace sur la surface de l'eau de nos années ou romance au sens ancien. Romance pour ceux qui prennent la mer comme on se jette à l'eau, comme sa vie jetée devant vers l'horizon et quel avenir. Reprise au hasard dans le livre, le présent que nous sommes est sans écran autre que la somme de la mer et la lumière. Sans le filtre multiple des jours, sans la nostalgie ou l'après, sans presque de paroles, la romance maintenant c'est nous, le locus amoenus corse. Méditerranée romance. Le ciel calme et la mer étale, la douce ligne à l'horizon repose, donne des airs de lieu amène, mais au centre la barque comme errante et radeau de la méduse et crie. Ça, c'est pour demain. Sur la mer, couleur de vin, glisse la barque réellement. Pour certains, dans l'eau, le raisin, sans métaphore, devient vrai sang. Yann Miralles.
Jacques Bonafé, merci, à demain.